Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour le dernier numéro de Vivante Église cette semaine. Vous avez peut-être vu passer cette information. Nous avons appris tout récemment que les apparitions de la Vierge à Pellevoisin en 1876 étaient en bonne voie d'être enfin reconnues par l'Église. Le dicastère pour la doctrine de la foi a rendu en effet une décision de nihil obstat, ce qui autorise officiellement les fidèles à adhérer à la dévotion mariale au sanctuaire de Pellevoisin. Nous allons vous expliquer ce que cela veut dire et ce que cela implique avec mon invité, le père Édouard Divry, docteur en théologie, membre de l'ordre des frères prêcheurs à Toulouse. Bonjour frère Édouard, bienvenue à vous aussi.
Bonjour à tous, bonjour Éric.
Vous êtes donc dominicain, vous avez participé ces deux dernières années aux travaux pour la reconnaissance des apparitions à Pellevoisin. Nous allons préciser ce qu'a été la teneur de ces travaux, en quoi ils ont consisté, par qui ils ont été menés, mais il va d'abord falloir rappeler ce qui s'est passé en 1876 dans cette petite commune de Pellevoisin située dans le département de l'Indre, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Châteauroux.
Exactement. Un lieu perdu, il faut bien le reconnaître. Quand je suis allé pour la première fois à Pellevoisin, train jusqu'à Châteauroux avec différents changements, évidemment, à partir de Toulouse. Et là, plus qu'un quart. Et le bus n'arrivait même pas à Pellevoisin. J'ai fini les derniers tronçons en autostop pour arriver à Pellevoisin. C'est vous dire que ça n'est pas quand même un lieu de considération, je dirais, de trafic internationaux. Hein. Donc, c'est vraiment perdu au sud de Bourges, à des kilomètres de Bourges.
Alors, c'est à l'ouest de Bourges, en fait. Voilà, c'est ça. Effectivement, et puis plutôt plus près de Châteauroux. Alors, je connais d'autant mieux les lieux. Excusez-moi cette petite anecdote personnelle que je suis né à Châteauroux, donc je connais très bien
le département de l'Indre. Donc, une femme, je dirais, en situation très précaire, Estelle Faguette, elle est en situation de risque de mourir très fort. Elle est employée par la comtesse de La Rochefoucauld dans le château un petit peu plus haut sur les hauteurs de Pellevoisin et elle a une péritonite au niveau des poumons plus une tumeur à l'utérus. Et les médecins ne lui donnent aucune chance de vivre. Les trois médecins qui la voient sont tous vraiment consternés par la détérioration de sa santé et pensent qu'elle va mourir. Et voilà que soudainement, elle a une apparition de la Vierge Marie alors qu'elle est dans sa chambre mourante. C'est le 15 février 1876. La Vierge Marie lui apparaît donc cinq fois au mois de février 1876, et lui promet, moyennant un retour vers l'essentiel de son baptême, de sa vie de foi, une guérison, donc hypothétique, selon sa demande elle-même, la Vierge Marie, à son fils Jésus. Et elle l'obtient, puisque le 19 février 1876, donc, subitement, eh bien, Estelle est totalement guérie. Et les médecins n'en reviennent pas. C'est vraiment stupéfiant, c'est vraiment la santé du jour au lendemain. Et puis comme preuve de la santé, c'est que cette guérison eh bien, se poursuit, parce que de 1876 à 1929, l'année de sa mort, eh bien, Estelle va avoir une bonne santé. Donc c'est une guérison confirmée, si vous voulez, dans le temps. Ce n'est pas seulement un effet charismatique, provisoire, qui pourrait retomber après, comme un soufflet qui retomberait après cuisson.
C'est une des caractéristiques du miracle, lorsqu'il s'agit de miracle de la Vierge, c'est que c'est une guérison complète et définitive.
Complète, définitive, instantanée.
Et instantanée.
Voilà. Et c'est vraiment ce qu'a eu Estelle. Et d'emblée, l'évêque de Bourges, puisque Pellevoisin dépend de l'archevêché de Bourges, Monseigneur de la Tour d'Auvergne, est édifié. Et l'année qui suit les apparitions qui se finissent le 8 décembre donc, 1876, donc sur l'année, dans le fond, et pour une fête de la Vierge Marie, l'Immaculée, et il prend aussitôt les choses en main, et dès janvier 1877, il ordonne une enquête. Une enquête d'abord sur la guérison d'Estelle Faguette, et puis une enquête sur les apparitions qui sont liées à cette guérison, puisque c'est au cours de ces apparitions, de ces 15 apparitions qui se développent au cours de l'année, qu'a lieu cette apparition. Car effectivement, après les 5 apparitions de février dont j'ai parlé, il y a 3 apparitions en juillet, 3 apparitions en septembre, 3 apparitions en novembre, et la dernière apparition qui est ce fameux 8 décembre 1876. Donc l'enquête est tout à fait favorable, et rebelote l'année d'après, l'archevêque décide une enquête sur les apparitions. Rebelote, tout le monde est favorable à cette enquête, et la chose aurait dû se conclure très rapidement, mais drame, l'archevêque meurt. Et à ce moment-là, on considère que tout tombe à l'eau, car toutes les décisions d'un archevêque, tant qu'elles ne sont pas conclues, c'est au successeur de les reprendre et de les décider. Donc il est mort en 1879, et d'une certaine manière, le processus de reconnaissance s'est comme auto-bloqué par la mort de Monseigneur de la Tour d'Auvergne. Et voilà que ses successeurs, donc Marchal est favorable à la guérison, mais sur les apparitions, bon, c'est pas un chaud-chaud des apparitions, donc il laisse un peu les choses poireauter. Son successeur, Boyer, qui devient cardinal trop vite en 1893-1896, n'a pas le temps de vraiment s'en occuper. Il est plutôt favorable, mais son titre de cardinal l'amène beaucoup plus à Rome et à soutenir le pape de l'époque. Et puis arrive Monseigneur Servonnet, 1897-1909, et on est en pleine période des lois, des nouvelles lois de persécution contre l'Église. Il y a déjà eu celle de 1880, le premier gouvernement franc-maçon, et là, nouveau gouvernement franc-maçon, et voilà que Mgr Servonnet est un peu approché par le gouvernement. On lui promet sans doute des choses, et il se met en opposition au chanoine, qui est le directeur spirituel d'Estelle Fagat, la voyante, et le père Salmon donc est mis de côté, même envoyé dans un village périphérique à Appelvoisin, donc loin des apparitions. Il n'a plus autorité sur Estelle Fagat, et d'une certaine manière, cette période de Monseigneur Servonnet, donc 1897-1909, est pratiquement un risque d'enterrer les apparitions de Appelvoisin. Heureusement, deux successeurs, Monseigneur Dubois et surtout Monseigneur Isard, vont d'abord faire venir des dominicaines contemplatives à Appelvoisin qui vont permettre de maintenir la dévotion, d'entretenir le souvenir du passage de la Vierge Marie. Et Monseigneur Isard est même tertiaire dominicain. C'est le premier dominicain qui, avec le père Édouard Hugon, un dominicain du Saint-Office, vont prendre les choses un peu plus en main et permettre surtout de garder trace, de commencer des archives, de commencer à conserver, si vous voulez, le précieux trésor de ces 15 apparitions de la Vierge Marie et du souvenir d'Estelle Fagat. Donc, Monseigneur Isard a un bon coefficient, si vous voulez, par rapport à ses tout proches prédécesseurs qui n'ont pas tellement agi en faveur de Appelvoisin. Et puis vient une série après d'évêques qui vont être un peu terrorisés par le Saint-Office, qui a pris position un petit peu mi-chef mi-chou en voyant que Monseigneur Servonnet a été contre, et du coup il n'ose pas avancer. Et il y a le fameux Méry Delval, qui était donc un secrétaire d'État du Saint-Siège, envoyé après comme bibliothécaire de la Sainte Église, et qui lui alors met vraiment le maximum de freins, et les évêques sont donc terrorisés. Fillon, Lefebvre vont laisser les choses passer, si vous voulez, et il faudra attendre la forte personnalité de Monseigneur Vignancourt, que vous avez connu, Éric.
Oui, il était archevêque de Bourges, quand j'ai fait ma confirmation. Donc, effectivement, il se trouve que je l'ai connu, ce Monseigneur Vignancourt.
Donc,
c'était une personnalité.
Une personnalité. 1970-1984, il est archevêque de Bourges. Il reprend le dossier avec courage et détermination. Et il déclare la guérison officielle, surnaturelle, d'Estelle Fagat. Donc enfin, la toute première commission, si vous voulez, prend ses effets, celle que n'avait pas pu être
plus d'un siècle.
Plus d'un siècle après, Monseigneur de la Tour d'Auvergne. C'est lui qui relance la chose. Alors après, il y a une série d'évêques, Plateau, Barbier, Maillard, qui ne sont pas très efficaces. C'est un peu les années post-68 art dans l'Église, et donc on ne s'intéresse pas beaucoup aux apparitions. Et il faut attendre Monseigneur Beau, qui prend ses fonctions en 2018, qui relance une enquête en 2021 et dont j'ai eu l'honneur de faire partie de 2021, 2022, 2023. Et nous avons conclu, donc 9 théologiens et experts, parce qu'on a pris un expert en démonologie, en différentes matières, donc assez divers, en histoire. Il y a surtout Sylvie Bernet, que je veux saluer, parce qu'elle est connue des auditeurs de Toulouse, puisqu'elle avait fait un doctorat sur les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui est bien connue ici sur Toulouse, et qui a pris le dossier en main historique et qui a montré, ben, dans le fond, que les origines, comme disait mon professeur de l'Angelicum à Rome, le père Padfort, qui a appartenu à la commission de Monseigneur Vignancourt, que les débuts sont très saints et que tout sonne très juste, très vrai. Et c'est à ce moment-là que la commission a pu faire, pendant ces 2 ans, cette enquête, revivifier cette enquête, et qui a abouti à ce Nihil Obstat que vous avez donc signifié au début de cette émission.
Alors, on va revenir évidemment sur les travaux que vous avez faits pendant ces 2 ans et sur ce Nihil Obstat, pour que les gens comprennent bien ce que ça veut dire. Je voudrais qu'on revienne aussi sur la manière dont Estelle Faguette décrit la Vierge lors des apparitions et sur les messages que celle-ci lui aurait transmis.
Alors, donc, Estelle Faguette est avec des parents extrêmement pauvres. Elle est obligée de travailler très jeune, très tôt, pour le bien de ses parents. Et même cela lui fait hésiter de rentrer dans la vie religieuse. Elle se sent une aspiration à la vie religieuse. Et voilà que patatras, dans ses moments de noviciat, alors qu'elle n'est pas encore engagée, elle tombe dans un escalier, se fait mal et restera toujours handicapée de cette chute, et la rendra dans l'impossibilité de rentrer dans une congrégation au service des malades, parce qu'il faut être capable de porter des plats, de soutenir les gens. Et donc les religieuses, malheureusement, lui disent: mais ma pauvre fille, on ne peut pas vous prendre. Alors, bien sûr, en plus, il y avait le problème de la dot à l'époque qui était important, mais là, disons que les religieuses étaient prêtes à la prendre indépendamment de ces questions de pauvreté. Et malheureusement, c'est la santé d'Estelle qui est déjà atteinte par cette chute et qui l'empêche de devenir religieuse. Donc, elle se consacre à son rôle de domestique chez cette famille qui veut bien l'accueillir assez généreusement, parce qu'elle n'a pas une santé extraordinaire. Donc, le comte et la comtesse de La Rochefoucauld sont quand même très généreux d'entretenir d'une certaine manière une servante qui n'a pas toutes les disponibilités nécessaires à un service plein et entier. Donc déjà une famille généreuse dans la base. Et Estelle Faguette est donc dans une petite chambre qui lui est allouée par le comte et la comtesse. Et la nuit du 14 au 15 février 1876, tout à coup, alors qu'elle est en prière, eh bien la Vierge lui apparaît. Et avec un combat spirituel, parce qu'en même temps, il y a une apparition du démon qui essaye de montrer qu'à cause des péchés qu'elle a commis, on ne saura jamais lesquels, puisque ça reste le secret de la confession, eh ben, le diable s'estime un pouvoir sur elle. Et la Vierge Marie vient chasser, l'écarter en disant: mais non, elle a notre scapulaire, elle a déjà nos signes et elle nous appartient à mon fils et à moi. Et donc elle chasse le démon, et les 4 premières apparitions, donc le démon sera là, mais de plus en plus loin. Finalement, il est complètement exaucé, et à la 5e apparition advient donc cette fameuse guérison d'Estelle Faguette, radicale, totale, instantanée. Et elle est en place, je dirais, pour recevoir sa mission. Quelle est cette mission?
Oui, parce qu'en fait, les 5 premières apparitions la concernent personnellement.
La concerne personnellement également. D'une certaine manière, c'est une préparation. Elle est comme préparée par la Vierge à sa mission. Et les apparitions qui commencent en juillet, du 1er juillet au 3 juillet, puis du 9 septembre au 15 septembre, puis du 1er novembre au 11 novembre, puis le 8 décembre, sont proprement dit les 10 apparitions qui vont consister à lui donner sa mission, à la former pour sa mission. Cette mission, eh bien, est très simple, est aussi simple qu'à Lourdes, je dirais. Il y a comme une prolongation de Lourdes, aussi simple. Elle est donc là pour prier, par l'intercession de la Vierge Marie, pour les grands pécheurs. Donc la conversion des pécheurs est au centre des apparitions de Pelvoisin. Pour nous, c'est important, parce que des pécheurs, on en a régulièrement, dans l'Église et ailleurs. Et donc, c'est une apparition qui est toujours d'actualité et qui mérite d'être mise en valeur à cause des grandes grâces que la Vierge Marie a promis à partir du moment où il y aura cette dévotion à Pellevoisin par le biais d'ex voto qui existe déjà dans le sanctuaire des apparitions et dans le sanctuaire de l'église de Pellevoisin, et aussi le port du scapulaire que demande la Vierge Marie, scapulaire qui, je vous rappelle,
du
cœur de Jésus, donc parce que nous le disions, toutes les apparitions sont toujours centrées sur Jésus.
Oui,
Jésus est toujours au centre, c'est très important de le rappeler. Et donc, c'est un scapulaire à double face. Une face sur laquelle il y a le grand cœur de Jésus et de l'autre côté, le cœur de la Vierge Immaculée. Et ce scapulaire est donc une promesse, quand quelqu'un le porte, d'une assistance toute spéciale, de piété, de guérison, de conversion. Et c'est autour donc de ces grandes significations des apparitions que tient l'ensemble. Je vous lis le texte. « Vois les grâces que je répands sur ceux qui porteront ce scapulaire avec confiance et qui aideront à le propager. En disant ceci, la Sainte Vierge étendit ses mains, dit Estelle, il en tombait une pluie abondante et dans chacune de ses gouttes, il me semblait voir les grâces écrites telles que « piété », retenons « piété », donc c'est le premier mouvement vers Dieu, et vers notre Seigneur Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu, donc de piété, de salut, parce que la piété entraîne à recevoir le salut. Donc on sait bien, vous voyez, christologique et christocentrique, hein, tout ce qui est dans les apparitions. Confiance, conversion, santé. En un mot, toutes sortes de grâces, plus ou moins fortes. Puis la Sainte Vierge ajouta, ces grâces sont de mon Fils, pas d'elle. De mon Fils, très important à comprendre, que c'est toujours « toute grâce vient de Jésus-Christ, ces grâces sont de mon Fils, je les prends dans son cœur et il ne peut me refuser ». Ça, c'est la grande alliance entre Jésus et sa mère, comme au pied de la croix, hein, où Jésus dit à Jean « voici ta mère hein, » et réciproquement « voici ton Fils », dit Jésus à Marie à propos de Jean. Et il y a cette interconnexion des cœurs,
oui,
je dirais.
C'est l'intercession de la mère qui permet au Fils de guérir personne.
Exactement. Comme à Cana, la transformation de l'eau en vin a lieu par l'intercession de la Vierge Marie. C'est toujours évangélique, si vous voulez. C'est toujours l'évangile qui s'actualise à travers ces multiples apparitions dont la France a été la bénéficiaire d'une manière remarquable, comme on le remarquait.
On en parlait avant l'émission,
Rue du Bac.
1846, la Salette.
La
1858,
Lourdes.
1871, Pontmain.
En Mayenne. Et 1876, notre Pellevoisin. Donc, le Nihil Obstat, c'est Rome qui, après avoir analysé nos travaux, qui dit ben, il n'y a rien qui empêche l'archevêque de Bourges de prononcer l'authenticité des apparitions de Pellevoisin, comme avait dû le faire donc Monseigneur de la Tour d'Auvergne et qui n'a pas pu le faire. Enfin, le successeur dans la succession apostolique, vous savez que les évêques sont successeurs des apôtres et que leur succession est très importante. Saint Irénée a été le premier à manifester l'importance de cette succession apostolique sur un siège. Bourges est un siège donc apostolique et il y a cette succession et les actes des archevêques sont authentifiés de l'un par rapport à l'autre. Et donc c'est Monseigneur Beau qui est en place maintenant, qui va certainement pour les 150 ans de l'anniversaire de ses apparitions en 2026 faire un acte formel de reconnaissance des apparitions. C'était ça son désir quand nous l'avons rencontré avec notre commission théologique. C'était ça son désir. Une fois que le Nihil Obstat serait donné par Rome, il pourrait faire cette reconnaissance des apparitions. Cela n'a pas empêché que depuis Monseigneur de la Tour d'Auvergne, il y a eu la piété mariale à Pellevoisin, parce que d'emblée, Monseigneur de la Tour d'Auvergne avait prononcé, d'une certaine manière, son vœu favorable qu'il y ait d'emblée une dévotion mariale à Pellevoisin. Et cela s'est passé sous l'égide du chanoine donc Salmon, le curé de Pellevoisin, qui a aidé Estelle Faguet, qui l'a dirigé spirituellement, qui l'a aidé spirituellement à se maintenir dans la direction vers la sainteté. Et donc d'emblée, les apparitions ont été solennisées chaque année en souvenir de ce que la Vierge Marie
a donné.
Il n'y a
pas eu de discontinuité.
Les apparitions de la Vierge Marie ont toujours suscité un pèlerinage régulier, même pendant les guerres 14-18, 39-45. Ça a continué, vaille que vaille, avec les moyens du moment, mais cette dévotion mariale continue donc depuis 1876.
On va rentrer encore un peu plus dans le détail des travaux auxquels vous avez participé pour la reconnaissance des apparitions de Pellevoisin et donc pour cette décision de Nikhil Obstadt. On va faire une pause en musique avant cela en écoutant le très beau Magnificat de Jean-Sébastien Bach.
Église, Éric Dupri.
Retour au direct avec le père Édouard d'Ivry, frère dominicain, docteur en théologie, avec qui nous allons maintenant revenir sur les travaux pour la reconnaissance des apparitions de la Vierge à Pellevoisin. Comment se sont organisés ces travaux et peut-être surtout et d'abord avec qui ?
Alors, ce sont des travaux sur lesquels nous sommes tenus à un certain secret, puisque, comme toujours, l'Église travaille avec prudence et désire que la hiérarchie soit respectée. Donc, ces travaux sont remis à l'archevêque de Bourges, lui-même les remet à la Congrégation pour la doctrine de la foi. Maintenant, on l'appelle Dicaster pour la doctrine de la foi, présidée par Mgr Fernandez. Donc, cette commission a été établie par Mgr Beau. Il a pris, bien sûr, l'historienne Sylvie Bernet, bien connue, qui a écrit un livre sur la vie d'Estelle Faguette. C'est vraiment très, très complet. Je le recommande. C'est facile à se procurer aux éditions du CERF. Vraiment un gros, gros volume. Et tout y est.
Et,
vraiment,
on et a... oui, puisqu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 86 ans.
Elle a vécu jusqu'à l'âge de 86 ans.
D'ailleurs, est assez rare pour les voyants. Parce que
oui,
oui. Souvent, ils ne vivent pas très longtemps.
Pas autant, effectivement. Elle, c'est vraiment une confirmation de son état de santé recouvré. Et en même temps, une libération par rapport à son état un peu de servante, puisque les dernières années, elle était libre de ne plus être employée par le comte et la comtesse de la Rochefoucauld, ça a permis de mieux détacher les apparitions de cette enclave que la famille de la Rochefoucauld avait eu un peu tendance à faire en disant « les apparitions ont eu lieu chez nous ». Et donc, c'est notre apparition.
Oui,
il y a un peu la tentation captative qui peut arriver dans le cœur des gens. Et bon, Estelle Faguette a pu se dégager de ces liens et elle est restée à la fin de sa vie tertiaire de l'ordre dominicain. Donc, pour nous, ça nous touche parce que c'est un membre, si vous voulez, de la famille dominicaine. Tertiaire dominicain, c'est-à-dire les laïcs.
Qui elle n'est pas entrée dans l'ordre.
Voilà, elle n'est pas rentrée comme religieuse.
Mais elle était autour.
Elle était attachée à l'ordre comme tertiaire dominicain. On est vraiment membre de l'ordre comme laïc, si vous voulez. Et donc, avec les autres dominicains qui ont participé donc, à ce bel événement, ils ont été quand même un certain nombre dans l'histoire de Pellevoisin. Vous avez en particulier, je l'ai cité, le père Édouard Hugon, qui a été l'auditeur au nom du Saint-Siège, au nom de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qu'on appelait à l'époque le Saint-Office, qui a écouté Estelle, qui l'a interrogée, donc c'est frappant. Et puis d'autres dominicains qui, au cours de cette histoire, ont pu avoir un rôle important. Je l'ai déjà dit, Monseigneur Isard, il a eu les sœurs dominicaines de Pellevoisin, encore vivantes, sœur Cécile Madeleine qui vit à Dax, donc c'est la dernière qui était de Pellevoisin qui s'est maintenant installée à Dax avec toute sa communauté. Et puis vous avez sœur Barbara Estelle qui vit à Fanjeau, vous pouvez très bien faire un jour une émission avec elle.
Pas très loin d'ici, effectivement.
Pas très loin d'ici. Le père Marie-Réginald Vernet qui a écrit deux livres sur Pellevoisin, qui est mort en l'an 2000. Le père Albert Patworth qui a été mon professeur à l'Angelicum à Rome, qui est mort en 2013 et qui probablement m'a inspiré du haut du ciel d'accepter et de travailler ce sujet parce que a priori j'étais pas du tout branché, moi je ne connaissais même pas le nom de Pellevoisin quand on m'a parlé pour la première fois de ses apparitions. Père Bernard Emery qui est mort en 2013 qui a été aussi membre de la 5e commission. Et moi-même. Par contre, nous avons eu droit à pouvoir lire tous les textes des anciennes commissions. Donc, c'est très important. Nous avons fait notre beurre, d'une certaine manière.
Des travaux précédents.
Des travaux précédents, donc des 6 commissions qui ont eu lieu avant nous, dont celle la plus importante, après les 2 premières, celle de la reconnaissance de la guérison surnaturelle d'Estelle Faguette. Et c'est grâce à tous ces travaux qui étaient déjà là, qui étaient dans les archives, si vous voulez, que nous avons pu si facilement, je dirais, développer le caractère surnaturel de ces apparitions et de nous prononcer les uns à la suite des autres. Mais indépendamment, nous avons donc Sylvie Bernet, qui était l'historienne, le père Francis de Chénion, un prêtre donc de Paris, moi-même, et de Toulouse aussi, nous avions 2 enseignants de l'ICT. Moi, je suis un ancien professeur de l'ICT et directeur d'un laboratoire de recherche en théologie à l'ICT. Sœur Claire Le Ridan, et puis surtout le père Étienne Richer, qui est actuellement donc, en droit canonique, le principal professeur de droit canonique de l'Institut catholique de Toulouse. Alors, au niveau local, dont Bertrand-Marie Perrin, un bénédictin de Foncombeau. Foncombeau a eu un rôle important parce que c'était pas loin de Pellevoisin.
C'est aussi dans le département de l'Inde.
Et aussi dans le département de l'Inde. Et puis, un autre spécialiste donc, des problèmes de démonologie, Thierry de Becker. Et surtout, non pas le moindre, mais le plus important, le coordinateur de la commission, Monsieur Dominique Vermersch, parce que c'est un laïc. On avait, vous voyez, fait donc une commission composé de personnes assez différentes, puisqu'il y avait des théologiens, des prêtres, mais aussi des laïcs, hein, Sylvie Bernet, la sœur Claire Le Ridan de la Communauté des Béatitudes, ainsi que Étienne Richer, Dominique Vermersch, donc coordinateur de la commission, qui finalement a eu un rôle, je dirais, non négligeable pour soutenir ses travaux. Et il disait avec humour, l'essentiel d'un coordinateur, c'est de ne rien faire par soi-même, de tout faire faire, mais de ne rien laisser faire. Donc, il avait bien compris son rôle de président, si vous voulez, et actif pour organiser les réunions, pour nous réunir et pour écouter chacun. Voilà.
Alors, les travaux ont porté sur quelque chose de bien précis, c'est-à-dire que vous étiez chargé d'examiner le contenu du message des apparitions
Exactement.
À Pellevoisin
voilà.
et d'évaluer sur le plan historique la portée du rayonnement du sanctuaire et les fruits spirituels qui y sont attachés. Je voudrais que vous nous expliquiez ce qu'il y a derrière cette très belle expression de fruits spirituels.
Alors, les fruits spirituels sont extrêmement nombreux et correspondent exactement à ce que j'exprimais tout à l'heure à propos de ce que la Vierge Marie a dit, la 15e apparition, sur tout ce qui est contenu, si vous voulez, dans la promesse que la Vierge Marie a réalisée en donnant des grâces donc de piété, j'ai dit tout à l'heure, de salut, de confiance, de conversion et de santé. Voilà les fruits spirituels, parce que si vous voulez, même de santé, le corps étant la forme de l'âme, étant l'acte de l'âme, eh bien, on comprend très bien que quand le corps va bien, l'âme aussi s'en porte bien. Donc c'est quand même un fruit spirituel, même si on pourrait dire que ce n'est qu'un fruit corporel. Non, nous ne sommes pas du tout dualistes dans l'Église. Nous pensons que âme et corps sont vraiment la création de Dieu. Et donc, ce qui touche le corps nous touche aussi. Et d'une certaine manière, rejaillit sur l'âme. Et réciproquement, quand l'âme reçoit des grandes grâces, souvent il y a un rejaillissement de l'âme sur le corps. Et ça, cet aspect est extrêmement concret que l'Église développe dans son anthropologie, qui est parfois trop oubliée, et qui montre que la santé est aussi un fruit spirituel. Et c'est ce qui est advenu à Estelle Faguette, puisqu'elle a conservé sa guérison de 1876 jusqu'à sa mort.
Que signifie précisément ce terme de Nihil obstat ? Est-ce qu'on peut le traduire comme ceci ? Plus rien ne s'oppose à la dévotion de la Vierge Pellevoisin et au sanctuaire qui lui a été dédié, c'est ça ?
Il faut être plus précis, Nihil obstat par rapport aux apparitions, à la reconnaissance des apparitions.
Rien n'empêche
la reconnaissance des apparitions de la Vierge Marie, car la dévotion existe déjà. Et le premier évêque, donc Monseigneur de la Rochefoucauld, de la Tour d'Auvergne, avait déjà donné son Nihil obstat pour que cette dévotion se développe à Pellevoisin. Donc, elle n'a pas bougé depuis les origines. Ça, il s'était déjà engagé depuis les origines. Malheureusement, sa mort avait empêché la reconnaissance
des apparitions elles-mêmes
et du miracle qui est advenu à Estelle Faguette. Et c'est ça qui advient, donc, longtemps après. Mais aux yeux de Dieu, 1000 ans sont comme un jour, vous savez. Hein, c'est ce que dit l'Apocalypse. Donc, pour nous, nous n'avons pas de crainte par rapport à ces délais que le ciel organise lui-même. Et probablement, pour un réveil spirituel en France, pour aussi un sens développé de la réparation que développent les apparitions de Pellevoisin, car quand il y a eu des fautes, il faut réparer. Et la réparation est une notion importante en spiritualité. Pour nous, chrétiens, c'est le sens du rachat, de la réparation telle que le Christ l'exprime dans le nombreux textes du Nouveau Testament, surtout sous la plume de Saint Paul. Et donc, nous comprenons bien l'importance de pouvoir parler de cette réparation. Et nous savons ce qui s'est passé en France entre 1950 et 2021, où il y a eu ce rapport de la CIAS, où il y a eu quand même de nombreuses fautes qui ont eu lieu, que ce soit chez les clercs et chez les laïcs, qui étaient en situation, je dirais, de responsabilité. Et donc, il faut réparer. Et cette notion de réparation ne peut pas être seulement une réparation sonnante et trébuchante. C'est un peu trop basique de passer par les sous. Il faut aussi des réparations spirituelles. Et justement, le message de Pellevoisin appelle à des réparations spirituelles. Et donc, je crois que là, nous sommes tout à fait au cœur de l'actualité de ce que nous vivons en France, puisque nous avons besoin de cette réparation. Nous avons besoin que l'Église se relève, que l'Église retrouve toute sa force, toute sa vigueur, et cela ne peut se passer que par cet esprit profond de réparation, d'ailleurs qui est tellement important, puisque la réparation fait partie de notre attente du retour du Christ en gloire. Je rappelle que le Christ achèvera par son retour en gloire la réparation finale, comme dit d'une manière très nette le texte de saint Thomas d'Aquin, dont nous célébrons encore les grandes années d'anniversaire depuis sa mort. Et je vous redis le texte de saint Thomas d'Aquin, que les misères humaines ne disparaîtront que dans l'ultime réparation de la nature humaine par la résurrection glorieuse. Texte qu'on trouve dans la Somme de théologie, Tertia Pars, question 69, article 3, à Tertium. Mais vous voyez, on se retrouve toujours à Toulouse. Est-ce que, les reliques de saint Thomas d'Aquin sont à Toulouse et nous célébrons la troisième année des centenaires de sa naissance, de sa canonisation et de sa mort. Et donc pour nous, c'est important de signifier l'importance de ce grand théologien qui éclaire tous les dominicains qui ont participé à ce travail sur Estelle Faguette, tertiaire dominicaine.
Et pour revenir à Estelle Faguette, donc désormais, par ce Niki Lopstadt, elle est reconnue comme un témoin fiable de ce qu'elle a vécu avec la Vierge Marie. Est-ce que ça veut dire qu'on s'apprête maintenant à ouvrir pour de bon sa cause de béatification ?
Exactement, vous avez tout à fait mis le doigt sur la façon dont procède l'Église. Comme à Lourdes, on a commencé par reconnaître les apparitions de Lourdes et puis après la mort de Bernadette, on a commencé à s'intéresser à Bernadette elle-même et Bernadette a eu un procès de béatification. Évidemment, le fait que les apparitions aient été reconnues comme vraies aide beaucoup.
C'est l'étape cruciale.
C'est l'étape cruciale, vous voyez. Et il faut noter quelque chose qui est très touchant. Un des successeurs de l'abbé Salmon, qui était donc le curé de Pellevoisin, à l'époque, au moment où Estelle est toute proche de mourir, pour des raisons tout autres que les maladies dont elle avait été guérie, c'est par tout simplement la faiblesse du corps. Quand on est au-delà de 80 ans, on sait bien qu'on n'en a plus beaucoup pour longtemps. Eh bien, le curé est venu la voir et est venu lui dire « Estelle, si tout ce que vous avez dit était faux, qu'est-ce que vous allez dire devant le tribunal de Dieu ?» Eh bien, Estelle a répondu du tac au tac. Eh bien, non, tout ce que j'ai dit est vrai et je m'approche du tribunal de Dieu en toute confiance. Magnifique, voyez. Elle est restée fidèle depuis 1867 jusqu'à sa mort en totale cohérence, si vous voulez. Ça, c'est important, voyez. Les témoins qu'on interroge sur les apparitions, sur les faits miraculeux ou sur les inspirations des révélations privées, c'est toujours la cohérence et la continuité. Ça, c'est déterminant. Et tout cela est très, très favorable donc, à un jour la béatification d'Estelle Faguette. Ça va prendre certainement pas mal d'années parce que nous savons que les choses sont lentes. Il faut refaire une commission, il faut nommer un promoteur de justice, c'est-à-dire l'avocat du diable, etc. Et tout cela, ça prend du temps, on réanalyse tout. Et puis, qui sera l'évêque qui sera encore en place à ce moment-là? Ça peut être un successeur de Monseigneur Vaux, parce que ça prend du temps. Donc, on ne sait pas la longévité des évêques. Est-ce que ce sera un évêque qui sera favorable à cette analyse? En tout cas, Monseigneur Beau, lui, est certainement très favorable. Je n'en doute pas un instant. Et on peut lui souhaiter longue vie pour que le procès soit suffisamment bien engagé pour qu'on puisse déclarer Estelle Faguette bienheureuse et puis un jour peut-être sainte. Mais il faut aussi des miracles. Des miracles la concernent. Ça, on ne fait de béatification que quand il y a des intercessions qui sont obtenues par le biais donc, d'une demande de prière par l'intercession d'Estelle Faguette, et non pas seulement par l'intercession de la Vierge Marie de Pellevoisin, vous comprenez? Parce que ces dévotions existent depuis 1876, donc ça ne suffit pas pour déclarer Estelle Faguette bienheureuse. Les gens sont venus prier Notre-Dame de Pellevoisin, et donc il n'y a pas besoin d'intermédiaire, si vous voulez.
On ne pourra lui attribuer un miracle que si c'est quelqu'un qui a prier l'intercession d'Estelle Faguette elle-même.
Et d'Estelle Faguette elle-même. Je vais vous lire une prière pour vous aider. Père très bon, toi dont la gloire est de manifester en tes enfants les fruits de la grâce que l'Esprit-Saint produit en eux, je te remercie d'avoir montré ta miséricorde en guérissant par l'intercession de Marie, ta servante Estelle Faguette. Donne-moi de savoir comme elle me confier à Marie, Mère toute miséricordieuse, c'est le nom qui est donné à la Vierge Marie à Pellevoisin, Mère toute miséricordieuse, daigne glorifier ta servante Estelle et accorde-moi à sa prière la faveur que je te demande. On dit à ce moment-là la demande que l'on a sollicitée, par exemple une guérison, par Jésus le Christ notre Seigneur. Et cette prière a été composée par Monseigneur Plateau, donc le 25 mars 1986. Donc Monseigneur Plateau, vous voyez, a ajouté son petit coup de pouce pour déjà l'avenir de cette béatification. Monseigneur Plateau qui est un successeur de Monseigneur Vignancourt.
Une chose me trouble beaucoup concernant Pellevoisin, et je pense que vous savez à quoi je vais faire allusion, c'est que Georges Bernanos, le grand écrivain catholique, était lié à Pellevoisin lui-même par sa mère, qui en était originaire. Enfant, il venait en vacances à Pellevoisin, et à juste avant sa mort, il a souhaité être enterré là-bas, donc il est inhumé aussi à Pellevoisin. Est-ce qu'il n'est pas troublant que ce grand écrivain catholique soit lié à cette commune et y soit même enterré?
Alors moi, pour moi, c'est tout à fait providentiel, car vous savez que dans ses écrits, Bernanos a développé un élément de spiritualité qui est tout à fait dans le sens de la réparation que nous parlions tout à l'heure, et qui est la réciprocité des mérites. Qu'est-ce que c'est que la réciprocité des mérites? C'est la possibilité, grâce à la communion des saints, auquel nous croyons, nous le disons à chaque fois que nous récitons le symbole des apôtres, je crois à la communion des saints, que ce qu'ils ont reçu de Dieu, les mérites en Jésus-Christ qu'ils ont reçus de Jésus-Christ, peuvent être communiqués les uns aux autres. Quand nous lisons le début de la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 1, vous avez le lieu par excellence scripturaire de cette possibilité de communication. Saint Paul dit « Tout ce que j'ai souffert, c'est pour vous, et ce que vous vivez, c'est aussi en communion avec moi ». Donc il y a cette possibilité qu'il y a dans le corps mystique de Jésus, qui est l'Église, de se communiquer les bienfaits. Eh bien, il y a dans tout ce qu'a écrit dans le dialogue des Carmélites de Bernanos, cette communication qui est possible, cette réciprocité des mérites qui est possible, et je pense que nous pouvons en bénéficier par Estelle Faguette et par tous ceux qui sont liés. Nous avons donc avec Bernanos, dans le fond, le diffuseur par excellence de cette réciprocité des mérites, et je crois que c'est tout à fait bienvenu avec cette idée de réparation et de conversion qui est au centre de Pellevoisin.
Pour poursuivre dans la série des hasards objectifs, vous savez, parce que je pense que vous avez beaucoup lu Bernanos, qu'il a écrit, je crois que c'est dans Sous le soleil de Satan, si ma mémoire est bonne, que le hasard nous ressemble. Eh bien, figurez-vous qu'avant même de savoir que nous allions dédier ce numéro à la reconnaissance des apparitions de la Vierge à Pellevoisin, j'avais prévu d'inviter à ma prochaine émission Yves Bernanos, le petit-fils de l'écrivain, dont le documentaire qu'il a réalisé et consacré à Charles Péguy est diffusé ces jours-ci sur la chaîne KTO, Charles Péguy, l'artisan du verbe. Permettez-moi d'y voir encore un signe. Il me reste à vous remercier, frère Édouard, d'être venu partager avec nous cette très bonne nouvelle concernant la reconnaissance des apparitions de la Vierge à Pellevoisin. Le Nihil Obstat était une étape très importante et nous suivrons bien sûr de près les étapes à venir maintenant en vue de la béatification d'Estelle Faguette. Ce numéro était animé par Éric Dupré, à la technique Christophe Aubry. Merci à tous de votre fidélité à notre écoute. À la semaine prochaine.